Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bon après-midi à vous tous. Ce matin, la première lecture de l'Eucharistie, un très beau texte, la première épître de Pierre. Il y a une petite phrase, une finalité à la fin du chapitre, au milieu du chapitre 4, verset 11, et que les bénédictins affectionnent particulièrement. Vous trouvez ça dans beaucoup de. Inscription, ce sont ces cinq lettres U-I-O-G-D. Jamais rencontré, jamais vu. Connaissez probablement mieux la devise des jésuites At maiorem Dei Gloria, à la plus grande gloire de Dieu. Mais les bénédictins ont aussi leur formule qui remonte à la règle de Saint Benoît. Et c'est Ut in omnibus glorificetur. Deus, pour que Dieu soit glorifié en toutes choses. Saint Benoît dit ça au moment où il vend des objets du monastère. Il dit, vous ne devez pas être grippe sous, et donc vous pouvez même vendre de façon un peu plus bon marché, afin que Dieu soit glorifié en toutes choses, même dans les tractations financières. Et donc, c'est un beau verset, une belle finalité des trois colonnes. Ultimement, pourquoi est-ce qu'on vit? Pour la gloire et que Dieu soit glorifié en tout et en tous. Il y a un apothème syrien, syriaque, que je cite dans le livre « Les trois colonnes du monde ». C'est très court, typiquement aussi des apothèmes. Commençons par réfléchir. Puis prions et passons à l'acte pour que Dieu soit glorifié en toutes choses. Donc c'est la finalité des trois colonnes, c'est pour que Dieu soit glorifié en toutes choses. Ceci nous donne une perspective, ceci nous montre déjà la fin, disons la finalité de toutes nos réflexions qui peuvent partir à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais ultimement, même si vous êtes parfois un peu submergé ou perdu, donne assez bien, un peu trop de feuilles pour le moment, mais donc avec ce que vous recevez, retenez que finalement la perspective est divine. Ce matin, on a essayé de suggérer le côté systématique, le côté organique de ces trois colonnes et le fait que il s'agit de les respecter toutes les trois et de rester en balance, de rester en équilibre. Très souvent dans la Bible, les prophètes prennent le contre-pied des prêtres ou les prêtres le contre-pied des prophètes. Le prophète, le prêtre dira « on ne touche pas ». Il dira « on sépare ». Et le prophète, il dira « on touche ». On passe outre, on l'embrasse. Tout le comportement de Jésus a irrité la sensibilité pharisienne, sacerdotale, parce qu'il mangeait avec des pécheurs. Il faisait bon accueil avec des gens qui ne respectaient pas les règles. Il sapait notre religion. Voilà la tension classique entre une attitude prophétique, et on a encore des prophètes parmi nous, et une attitude sacerdotale. Or le sage, et toute la Bible est construite là-dessus, le sage intègre et donne voix aux deux, et les maintient, et les tient en équilibre. Chez Matthieu, par exemple, au chapitre 22, de 34 à 40, il nous décrit les commandements. On demande à Jésus le plus grand. Et il ne donne pas une réponse, mais il donne deux réponses. Et quand on écoute bien, il donne trois réponses. Il donne une première réponse, il dit, mais vous connaissez, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Le grand commandement, la prière quotidienne, trois fois par jour, on répète ça. Et il ajoute, voilà le premier et le plus important. Et le second lui est égal. Tu aimeras ton prochain comme toi. C'est à ces deux qu'est suspendue toute la Torah et les prophètes. En même temps, il souligne qu'il y en a deux. Il souligne qu'il y en a un qui est premier et l'autre qui est second. Mais il ajoute, ils sont égaux. Et ça, c'est de l'ordre de la sagesse. N'allez pas maintenant, disons, exclure l'un par rapport à l'autre. Il faut vivre l'un dans l'autre. Matthieu 22, 34 à 40. Et donc, de nouveau, vous voyez une polarité, mais elle est pratiquée de façon sapientielle. Et Matthieu est un grand maître à donner à réfléchir l'articulation de ces deux. Dans le fond, Jésus fait là quelque chose de très juif, c'est-à-dire qu'il trouve deux textes avec la même expression. Et quand on trouve deux textes avec exactement la même expression, on peut toujours interpréter l'un par l'autre. Une règle rabbinique. Alors, quelle est l'expression qu'il trouve des deux côtés et qui ne se trouve que trois fois dans toute la Bible? Et tu aimeras. En hébreu, c'est un mot. Va'ahavta. Et tu aimeras, ça se trouve là-bas en tête du Deutéronome chapitre 6, mais ça se trouve aussi en tête du Lévitique chapitre 19. Et l'un concerne Dieu et l'autre concerne le prochain. Et qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Nous ne le savons pas. Regarde ce que dit le Lévitique. Pour aimer Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras donc ton prochain comme toi-même à la manière d'aimer Dieu. Et tu aimeras Dieu en vérifiant ton amour à travers l'amour de ton prochain. Et l'un éclaire l'autre. Et l'un ne peut plus être séparé de l'autre. Et le grand commandement, c'est cette intégration des deux. Or, l'intégration des deux, c'est un moment de sagesse. C'est un moment de réflexion où le sage a associé deux textes qui a indiqué des directions différentes. Cet après-midi, j'aimerais m'attarder à la première colonne. Qu'est-ce que c'est que cette étude de la Torah des rabbins? Qu'est-ce que c'est que cette doctrine ou enseignement des apôtres? Ou encore, dans la tradition monastique, qu'est-ce que c'est que cette lectio divina? La semaine dernière, je me trouvais à Saint-Désert. Déçu, je dois vous l'avouer, qu'en fait ces évêques qui essayent avec une intuition très juste de proposer la foi dans un contexte actuel nouveau qui a changé, dont ils font l'analyse, n'arrivent pas à suggérer même une vraie pratique de la lecture biblique comme un ingrédient indispensable pour vivre sa foi. C'est de la pensée à partir de l'écriture. Eh bien, ce que j'ai découvert la semaine dernière, c'est que les temps ont changé. Et que depuis Ecclesia 2000, 2004, 2006, il se passe quelque chose en France sur ce plan-là. Alors je vous communique ça comme une bonne nouvelle. Donc, un souci chez les évêques et dans la pratique, et donc l'invitation qu'on m'avait donnée à moi, mais c'était un programme sur toute une année, donc 10 intervenants, chaque mois un autre, sur lire la Bible, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, pratiquer cette parole. Moi, j'avais comme contribution d'illustrer la lectio divina à partir du monde monastique. Donc, je suis encore assez chaud dans mon sujet, puisque je l'ai expliqué une nouvelle fois, il y a à peine 8 jours, à des Français. Et ça a été assez bien reçu. Donc, il y avait un vicaire général qui, c'est lui qui a ouvert mon esprit à ce glissement, ce changement de perspective qui est notable depuis 15 ans que l'on réfléchit sur ces choses. Alors, concrètement, il s'agit d'un art, d'une pratique. Commençons d'abord par expliquer la parole, lectio divina. C'est une vieille parole qui n'a jamais été traduite dans la langue moderne, ni en anglais, ni en italien, ni en espagnol. On ne parle jamais de lectione divina, par exemple, en italien. Alors que ça existait en grec, anagnorisis, thea anagnorisis, et en latin, lectio divina. Qu'est-ce qui fait difficulté pour traduire? Ce n'est pas le mot lectio qui veut dire lire, mais c'est le mot divina. Un adjectif qui ne dit rien quand on le traduit, lecture divine. Alors qu'en latin, ceux qui connaissaient le latin, ils savaient que c'était une façon polie de dire Dieu. Et que donc l'art de la lecture de la parole de Dieu, c'est de lire Dieu. Et là commence la difficulté. Est-ce que nous allons lire Dieu? N'oublions pas qu'en français, comme en grec, legen, comme en flamand et en allemand, lesen, ça veut dire lier. Est-ce que nous allons lier Dieu? En flamand, on dit ça, des carottes, on lit des carottes. Lesen, zusammenlesen en allemand. Hein? Et la chose intéressante du verbe, c'est qu'à force de lire, c'est le texte et c'est la parole de Dieu qui va me lier. En lisant, je vais trouver qui je suis. Je vais trouver mon point d'unité. Je vais trouver mon identité réelle. Et donc, il y a une inversion de perspective. Au départ, je crois que je vais saisir, je vais comprendre, le mot le dit bien, prendre, et avoir grip, avoir, disons, une saisie du texte. Mais en réalité, c'est le texte qui va me saisir, qui va me lire. Il y a l'inversion des perspectives. Elle est fondamentale pour toute vie spirituelle. Hier soir, quelqu'un aussi a dit « Je fais silence et finalement, c'est Dieu qui prie en moi. » L'inversion s'est accomplie. C'est la phrase de saint Paul qui est une phrase grammaticale de nos vies spirituelles. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Galates 2:20. « Ce n'est plus moi qui prie, c'est l'Esprit et le Christ qui prie en moi. Ce n'est plus moi qui prends les choses en main, mais je suis porté par l'autre en moi, plus moi-même que moi, comme disait Claudette. » Pour un peu visualiser cette inversion, donc spontanément, c'est le schéma des phénoménologues, de Husserl et des autres, nous sommes un sujet et nous sommes orientés tourné, notre œil est fait pour regarder à l'extérieur, pas pour se voir, mais pour saisir des objets. Ça, c'est la structure normale de notre connaissance phénoménologique. Ma main, elle est faite pour prendre autre chose que ma main. Elle est tournée, elle est orientée, tout mon corps est orienté, ça c'est la flèche, ça c'est l'intentionnalité vers l'objet. Bien. Quand on lit, crac, j'y vais, je mets le grappin sur. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas tout de suite. Au bout du compte, après un processus, c'est que je découvre que cet objet est sujet. Et qu'il est bien plus sujet que moi-même, et la flèche s'inverse. Il est le sujet de ma subjectivité, l'inversion des perspectives. Et vous avez ça dans assez bien de textes. En les serrant de près, vous voyez que quelqu'un cherche et qu'il découvre qu'il est recherché et qu'il est trouvé. La fin de sa recherche, c'est de découvrir non pas qu'il a trouvé un objet, mais qu'il est lui-même visé par celui qu'il cherche. Vous connaissez l'histoire de Saül, il va chercher les ânesses de son père. Et il va trouver un prophète qui va le consacrer roi. Quelle inversion! Et à un moment, on lui dira, les ânesses sont retrouvées, mais ton père s'inquiète de toi. Et entre-temps, il a trouvé un autre père qui lui donne une autre destinée et qui va devenir le roi. Et donc, l'inversion des perspectives. Prenez Nathanaël. Nathanaël et Jésus, voir être vu. Je t'ai vu avant même que Philippe ne te dise. Il est vu alors qu'il voulait voir. Et il reçoit comme perspective, tu verras encore des choses plus grandes. Ça, c'est dans le premier chapitre de Saint Jean. Mais donc, le changement de perspective dans l'acte même de la lecture, ça, c'est ce à quoi il faut se préparer. Et dans la lecture, nous ne faisons que vérifier ce à quoi nous devons nous préparer pour toute notre vie spirituelle. Et c'est pour ça qu'on peut le vérifier si facilement à travers les textes, parce que ces textes sont des textes spirituels, des textes qui ont traversé le passage de « je saisis un objet, je suis saisi par un sujet ». Alors, un peu comme porte-manteau, si vous permettez, si vous m'excusez, j'ai comme habitude de dire, quand je présente la lecture comme art, qui a un point mystique, qui a deux handicaps, qui a trois mesures, qui a quatre stades ou âges de la lecture, il y a cinq clés de lecture, il y a six perspectives pour l'avenir. Maintenant, on va tout voir. Nous n'avons pas une semaine pour nous concentrer sur la lectio divina. Ça m'arrive de donner des sessions comme ça, 4 ou 5 jours, à des contemplatives, avec des enquêtes, pour voir comment ça marche concrètement. Actuellement et comment ça peut évoluer dans les communautés. Mais je vous donnerai quand même quelques clés, quelques repères et quelques réflexions qui peuvent provoquer une pratique fertile, une pratique utile. Commençons par les 4 âges de la lecture. Tous nous devons tôt ou tard passer par ces 4 stades. De la lecture de la Bible. Il y a une première Bible qu'on peut appeler la Bible fantastique. C'est la Bible des enfants, c'est la Bible des histoires merveilleuses, de l'histoire sainte. C'est aussi la Bible des films, Jesus Superstar, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, et ça crée des horizons, des images. C'est la Bible imaginaire. C'est indispensable, c'est la Bible des cathédrales, si vous voulez. C'est la Bible, par exemple, des peintures murales, des fresques qu'on trouve en Roumanie, où l'intérieur et l'extérieur de la chapelle est toute couverte de la Bible, en dessin. C'est la Bible des voyages aussi. Aller en Terre Sainte, ça me donne des images inoubliables. Qui meuble ma mémoire et qui me situe, donc je ne sais plus écouter l'évangile de la même façon. Dès qu'on est sur les collines de Galilée, je les vois. Dès qu'on est sur le lac, je le sens. Il y a un exégète qui dit que dans le Nouveau Testament, il y a une odeur de filet de pêche qui traverse tout le Nouveau Testament. Intéressant. Au moins, c'est quelqu'un qui lit avec son nez. Mais donc, ça fait partie de cette première Bible, la Bible fantastique. Elle n'est pas négligeable dans ce sens-ci, c'est que certains jeunes aujourd'hui n'ont jamais lu cette Bible fantastique. Anne-Marie Pelletier, une grande exégète, a écrit tout un livre d'introduction à la Bible pour ses étudiants. Parce qu'un jour, elle fait une visite du Louvre, elle entend une des gamines lycéennes de 15-16 ans dire: mais qu'est-ce que font tous ces babysitters ici? Qu'est-ce que font tous ces babysitters? Comment est-ce qu'on dit en français? Babysitters. C'était les madones avec l'enfant. Et comme elle n'avait plus cette culture, elle n'a jamais vu ça. Elle voit ça pour la première fois et il y en a tellement. Que font tous ces babysitters? Le décalage culturel de quelqu'un qui n'a pas reçu ces images, qui n'a pas reçu une culture admirative de ces images, qui alors laisse tomber comme ça de façon un peu grossière. Probablement qu'on en sait quelque chose et en même temps on ne veut pas trop en savoir et on en fait des babysitters. Alors elle, en protestation, a écrit tout un livre où elle aide les lecteurs intelligents mais sans culture à se retrouver dans les images et dans l'imaginaire biblique. Il y en a un autre qui est un Américain, Northrop Frye, qui avait des étudiants aussi de littérature, mais dit, William Blake, Dickens, Shakespeare, tous ces grands auteurs, quel est leur code imaginatif? C'est la Bible. Et tous mes jeunes n'ont jamais lu cette Bible. Alors, pour ouvrir la porte à ces jeunes, il a écrit un livre qui a été traduit en français, Le Grand Code, The Great Code. Et c'est repassé à travers toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, donc c'est la Bible chrétienne, pour montrer alors à travers la littérature comment William Blake et d'autres grands auteurs ont recompris ou remodelé, disons, des pages célèbres de la tradition. Donc, première Bible, quelque part indispensable, quelque part aussi tout le temps en mouvance. Hein. André Chouraki, que vous connaissez sans doute, qui a donné une traduction originale de la Bible, il a édité en 10 volumes une Bible commentée par des chrétiens, des juifs et des musulmans. Et toutes les planches sont faites par l'Université de Jérusalem. Et ces planches sont toutes de l'archéologie. Et créer un nouvel horizon imaginaire autour de la Bible. Aucune icône, aucune pieuserie chrétienne de quelque genre que ce soit. Dans la tradition juive, iconographiquement, il y a peu. De tout cela, on ne nous donne rien. Mais on crée, à travers la statuaire, la poterie, les paysages, l'archéologie, on crée un horizon autour des textes et ça renouvelle notre Bible imaginaire. Donc, premier degré, ce n'est pas très important, mais c'est quand même un cadre. Et ça aide la mémoire. Quand mes amis africains viennent du Congo et que je leur montre la ville de Bruges, qu'est-ce qu'ils voient? Des vieilles pierres. Je leur dis, non, ça c'est ici une façade néo-gothique début du XXe siècle. Ça n'est pas vieux, ça c'est rien du tout, c'est plaqué. Tandis que ça c'est vraiment le XVIe siècle, c'est une très très belle façade. Pour eux, c'est tout la même chose, et 16e siècle, 19e siècle, c'est tout vieux, quoi. Quand on n'a pas de mémoire, on ne sait pas situer. Comme nous, quand on regarde l'art égyptien, 1er empire, 2e empire, 3e empire, 5e empire, il n'y en a pas 7, mais enfin, ça nous est tout à fait égal. Parce que nous n'avons pas de mémoire. La mémoire nous aide à situer. Et pour la Bible, ça a également son importance. Deuxième étape, c'est la vie de l'adolescent. C'est la Bible du curieux qui veut voir, qui veut savoir, qui veut tout lire, qui veut comparer avec les textes babyloniens. Il y a un Job babylonien. Ah bon? Il y a un Philoctète grec qui ressemble drôlement au Job biblique. Est-ce qu'il y aurait un parallèle? Est-ce qu'il y aurait une influence entre le drame grec et le drame? drame de Job. Est-ce que Job est inspiré par la tragédie grecque? Il y a un prologue, il y a un épilogue, il y a un deus ex machina à la fin. Je veux savoir, je veux comparer. Alors, on s'emballe pour les chronologies, pour les comparaisons, pour l'arbre généalogique d'Hérode, il y a de quoi s'y perdre, hein, tous les Hérodes qu'on a dans le Nouveau Testament, tous les Jacques, je crois qu'il y a 7 Jacques uniquement pour le Nouveau Testament. Je voudrais les distinguer, les associer. Est-ce que Marie de Magdala est vraiment Marie de Magdala ou est-ce que c'est aussi la sœur de Lazare, par exemple? Qu'est-ce qu'on en dit? Bon, je vais éplucher. Ça, c'est ce que fait d'ailleurs l'exégèse. Peut-être que l'exégèse est pour 90% une satisfaction des adolescents que nous sommes tous. Nous voulons savoir. Et ça peut être un excellent stimulant et il n'y a pas d'âge pour être cet adolescent. Il y a des gens qui ont terminé leur carrière, sont des ingénieurs, des gens qui ont une tête bien faite quelque part, bien calculatrice, et qui se disent, maintenant que j'ai le temps, hein, pensionné, retraité, je vais m'appliquer à la Bible. Et ils commencent par faire des tableaux chronologiques, des comparaisons. Ils redeviennent des grands adolescents. Ils se jettent sur la Bible par la porte de la curiosité et ils découvrent aussi un tas de choses que beaucoup d'autres gens qui vivent la Bible ne connaissent pas. Il y a moyen, un des grands spirituels de l'Égypte qui vient de mourir, le pape de l'Égypte, Copte, connaissait tous les chiffres de la Bible. Tous les 40, tous les 60, tous les 70, tous les 90, et les 90, il les connaissait. Et donc il pouvait mettre des rapports entre ça. Il était moine comme ça, il s'est retiré au désert avant de devenir le patriarche d'Alexandre. Donc voilà un homme qui était, tous les dimanches, il donnait une conférence pour la jeunesse en pleine cathédrale, il s'amusait avec ses chiffres, et il époustouflait tout le monde, et ça sortait comme ça. Un temps, il était un adolescent, et il avait bien enregistré tout ça, et il jouait avec ça. Et il y a de quoi donc apprendre, il ne faut pas mépriser cela. Bien sûr, ça ne nous fait pas encore vivre. C'est une Bible pour les curieux, par les exégètes qui savent gagner leur croûte grâce à ce genre d'exercice, les autres, disons, restent sur leur faim, hein, le connaissons. Et donc, il y a une troisième Bible qui est la Bible des adultes, la Bible qui devient une parole de vie, une parole pour vivre, une lampe sur mes pas. Elle me donne à réfléchir, elle m'interpelle, désarçonne, elle me choque, elle me stimule, elle ouvre des perspectives auxquelles je n'avais jamais pensé, elle découvre la bête humaine que je suis, elle m'offre un miroir, et j'avance, et je découvre, et je respire autrement, et je vois des lignes, des trajectoires, des repères, des annonces, des profondeurs. Un niveau, deux niveaux, trois niveaux. Et je continue. Et je découvre que c'est inépuisable. Il y avait un rabbin qui avait dit à Origène, la Bible, c'est quand tu te trouves devant 50 portes. Tu ouvres une porte, et qu'est-ce que tu vois? 50 autres portes. Tu ouvres une porte, qu'est-ce que tu vois? 50 autres portes. Tu as ouvert quelque chose, tu as compris quelque chose. Et le mystère s'agrandit. Et il continue de s'agrandir. Et 50, c'est le chiffre de l'esprit, hein, de la Pentecôte. C'est une image de la surabondance de sens que Origène nous propose à travers ce dicton d'un rabbin de sa génération. Ça, c'est donc la Bible adulte, c'est pas nécessairement toute la Bible. Il y a des pages qui me marquent plus que d'autres. Un jeune couple se prépare au mariage et lise le sermon sur la montagne accompagné. Et ça devient leur miroir, leur texte de base. Et une fois par an, ils relisent ce texte. Ils se retirent dans un monastère. On va relire le sermon sur la montagne. Et ils vivent. Tout reprend. Et ça a grandi, ça a changé, ça a évolué, ça s'est approfondi. Chacun de nous, au fil des années, à des pages inoubliables, précisément. choisi pour notre mariage, qu'on s'est choisi pour la sépulture de notre maman. Quels sont ces textes? Est-ce que je peux faire deux colonnes? Les textes qui m'ont le plus nourri dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et vous verrez que ça n'est pas toute la Bible. Mais c'est intéressant de connaître pour soi les textes forts. Est-ce que dans Saint Paul, j'ai quelques pages qui me frappent? 1 Corinthiens 13. Romains 5, Romains 8. Et ça veut dire aussi, chaque fois que je vais repasser par ce texte, je vais être ramené à ce qui fait le cœur de ma propre spiritualité, de mon propre regard sur la vie. Un grand texte illumine mon regard sur la vie. Et ça, c'est le propre de ce troisième stade, hein, la Bible adulte. Et parfois, il faut s'aventurer à lire toute la Bible pour précisément retrouver d'autres pages ou une nouvelle caisse de résonance pour les grandes pages qui m'intéressent. Par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une petite phrase de Jésus. Elle revient 3 fois, 4 fois dans Saint Matthieu, elle revient tout le temps dans le Nouveau Testament, même Paul et les autres citent cette petite phrase. Mais je vais la relire dans son contexte. Lévitique 19. Quelle page! Et brusquement, elle reçoit un sens tout à fait nouveau. Et je vois que même dans ce qui précède, il y a l'amour des ennemis. Et je croyais que c'était une invention de Jésus. Mais je vois que dans le Premier Testament aussi, on connaît l'amour des ennemis. Je dois étudier, je dois regarder les contextes, je dois voir comment ça marche. Et je découvre que ça se trouve au cœur du Lévitique. Au cœur du Lévitique, il y a 5-6 chapitres qui sont la loi de sainteté. Alors, le Lévitique a été placé, c'est un choix qui a été fait par les rabbins, antérieurs à l'ère chrétienne, de placer ce livre-là au centre de la Torah. Donc il y a les 5 livres de Moïse, au cœur des 5 livres de Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Le Lévitique. Au cœur du Lévitique, qu'est-ce qu'il y a? La loi de sainteté. Au cœur de la loi de sainteté, le chapitre 19. Et quand je regarde bien et que je compte, il y a 7 unités dans ce chapitre. Et où se trouve « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Juste au milieu, la 4e unité, la fin. Et c'est ce verset-là que Jésus sort de toute la Torah pour dire, ça c'est le principe. Et saint Paul dit la même chose, ça c'est le principe. Romains chapitre 13. Toute la loi c'est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, lire, relire, continuer à lire, et finalement découvrir des nouveaux ensembles qui renforcent ce que j'ai déjà acquis, à savoir, je sais que la chose la plus importante, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, simplement des petites suggestions comme ça, pour vous mettre, je dirais, à l'aise et mal à l'aise, c'est-à-dire pour vous déstabiliser et chercher des nouveaux équilibres à force de vivre. Et puis il y a un 4e stade. C'est le stade où le vieillard, le vieux moine que j'ai connu, les vieux moines que j'ai connus, ne lisent plus. Où le livre est un livre sans livre. Ils vivent du livre, ils respirent le livre. Il y avait chez nous un vieux moine, il est mort à 97 ans. Il a été battu quelques années plus tard, parce qu'il y en a un qui est devenu 105. Ça vit bien là-bas dans les plantes. Mais lui, 97, il a eu le record pendant très longtemps, certainement 10-15 ans. Et voilà que quand il avait 92, je lui demande, frère Bas, qu'est-ce que vous lisez encore? Je ne lis plus, je ne pourrais même avec mes yeux. Mais j'ai lu toute ma vie. Ça n'a qu'à donner son fruit. Et ma question venait justement du fait que j'avais l'impression que cet homme a une source. Tout rejaillit, et il a des citations, mais à n'en pas finir. les unes plus marrantes que les autres. Et parfois, c'est lui qui ajoutait le petit grain de sel qui rendait tout marrant. Un jour, je viens à côté de lui, comme ça, sur son lit, parce qu'il était assez sourd et donc aveugle. Il m'avait dit, à part toi, je n'ai plus personne. Je n'ai que moi, on a vite fait le tour. Mais ce jour-là, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, je dis, je suis avec un groupe à l'hôtellerie, un dialogue judéo-chrétien. Il y a un pape, c'est Pie XI, qui disait, nous sommes tous spirituellement des sémites. Jean-Pine, c'est vraiment juste, et je le félicite comme ça, sans mots, mais en inclinant. Puis il me donne un petit coup de coude. Comparé à nous deux, il faisait ce qu'il pouvait. Ça sortait de sa bouche, comme ça, comparé à nous deux. Puis il a rajouté, je m'excuse, j'ai sauté une phrase, il paraît qu'il était très intelligent. Comparé à nous deux, il faisait ce qu'il pouvait. Un autre jour, j'arrive chez lui, je lui dis, je m'excuse, c'était son coiffeur. Il n'avait pas plus un cheveu sur sa tête, mais c'était son coiffeur. Je dis, ce soir, ça n'ira pas, j'ai un groupe. Comme disait Napoléon, not tonight, Josephine. Ça sortait de sa bouche. Donc, il était plein. Quand j'étais fatigué, j'allais m'asseoir auprès de lui et c'était un bonheur. Et c'était réciproque. Un jour, qu'est-ce que je ferais sans lui? Qu'est-ce que je ferais sans lui? Je dis, et moi sans vous? Vous sans moi et moi sans vous? Ça, c'est le bonheur. Du fond de son lit. Un jour, son café, je m'excuse, son café s'est refroidi. Je reviens, je dis, mais j'avais apporté le café pour 4 heures. Je dis, fais va, votre café va se refroidir. Il est en train de se frictionner avec de l'alcool, comme ça. Je me soigne par petits morceaux, c'est du vieux matériel. La plus belle, peut-être, dans un monastère, on ne peut pas parler dans les corridors. On peut parler dans un coin, dans une chambre. Alors, il y a dans le monastère un ascenseur. Un ascenseur, c'est quoi? C'est un corridor ou c'est une chambre? On entre à deux dans l'ascenseur. On pose sur le bouton, on ne dit rien tant qu'il bouge. On ouvre la porte, on est dans une chambre. Et avant d'entrer dans le silence, les langues se délient. Et il me regarde comme ça, il était tout petit. Moi, j'étais plutôt long et maigre à ce moment-là. Il me dit, quel bonheur! Nous avons été élevés ensemble. Voilà. Il y a de la tendresse dans les monastères. Ici, et voilà, l'important de ce quatrième stade, c'est que la Bible est à l'intérieur, qu'il n'y a pas d'âge pour la Bible et qu'il n'y a plus besoin de sortir de la ville pour puiser de l'eau. La source est à l'intérieur. Et c'est vers cela que nous marchons. Alors je crois que tous nous devons passer par les quatre âges. On peut être très jeune et déjà avoir entrevu le quatrième stade à partir de sa mémoire. Et j'ai de beaux exemples, mais je ne veux pas trop épiloguer. Voilà les quatre âges de la lecture, et ça vous ouvre un petit peu aux possibilités de votre lecture. Et ne négligez aucune des quatre, ne méprisez pas l'adolescent au fond de vous, qui est curieux. Et ça peut être le début d'une recherche qui se convertit en autre chose. Ne sous-estimez pas la Bible fantastique, par exemple les petits-enfants. C'est une responsabilité des grands-parents de transmettre des choses belles autour de la Bible et de raconter les histoires, et de les raconter intelligemment, en tenant compte de ce que l'on peut transposer et ouvrir comme sens. J'arrive alors aux deux handicaps de la lecture, qui sont typiques pour notre époque. premier handicap, c'est la concurrence des médias, la lecture étant un des médias. Et cette lecture est de plus en plus menacée par les autres. Comme je vous disais déjà, une enquête montrait que les jeunes qui entraient au monastère, très souvent, n'avaient jamais lu un livre d'un du début jusqu'à la fin. À Francfort, lors d'une Buchmesse, c'est-à-dire une foire du livre, une enquête disait qu'un Allemand sur trois, ne lit jamais un livre. On lit des journaux, on lit des revues, mais on ne lit plus jamais un livre. Combien de livres est-ce que nous lisons encore qui ont plus de 50 ans, qui ont plus d'un siècle? Alors qu'est-ce qu'on a à lire un livre qui a 20 siècles? Quelle difficulté aussi, puisque nous ne sommes pas habitués à lire des vieux livres qui viennent d'une autre culture, d'une autre tradition. Donc tout ça, par exemple, nous le voyons avec des jeunes qui entrent au monastère, qui n'ont aucune culture de la lecture, et pour qui lire le matin la Bible, ça signifie rien. J'ai eu des jeunes qui étaient des maîtres en ordinateur, qui savaient programmer, mais qui n'avaient pas lu. Ils savaient programmer des programmes entiers. Ils ont fait le site du monastère sur Internet, 4 étoiles. Mais la lecture, c'était... Comment retrouver ce tas de la lecture? Certains philosophes, sociologues, Georges Steiner et d'autres, par exemple, mon propre professeur de philosophie, sont très pessimistes pour l'évolution de la lecture. La plupart des maisons, il n'y a pas de silence, et donc une certaine lecture est exclue. La poésie demande du silence. Un texte un peu profond demande du silence. Mais on n'a plus de silence. Nous avons des étudiants qui viennent étudier au monastère et après 2 jours, ils sont partis. Ah, je ne sais pas me concentrer, c'est beaucoup trop silencieux ici. J'ai besoin d'un fond. Il n'est pas question de laisser allumer sa radio toute la journée. Donc, ils sont repartis. Le silence les dérange. Donc, la lecture est fragile et on passe 20 heures, 25 heures, 30 heures par semaine devant la télévision. Et nous savons tous que nous pouvons rester zappés pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Brusquement, on se dit quand même, demain, il y a une autre journée, on arrête. Mais par hyper fatigue, mais saturation, c'est difficile à dire. Et on ne sait pas très bien pourquoi. Quand ma mère est devenue aveugle, c'était le point le plus difficile. Elle est devenue veuve, pardon. C'était cette télévision. Mon père disait, Mitchell, maintenant, ça suffit, on va dormir. Elle avait un repère. Maintenant, il n'y avait plus quelqu'un qui disait « Mitch, ça suffit, maintenant on va dormir ». Elle restait. Elle a dû découvrir comment gérer ça. Non. Alors qu'on peut lire 1 heure, peut-être 2, et ça nous marque beaucoup plus en profondeur, on sait qu'on peut rester 4 heures devant la télévision et c'est passé comme si c'était rien. Et ça montre très bien que dans la concurrence des médias, la lecture ne pèse pas. Sauf si je fais un choix, si j'en fais une stratégie. Parce que je sais de moi-même que quand j'ai lu pendant 1 heure et demie dans Platon, je suis autre. Je suis de nouveau quelque part à demeure. Enfin, ça, c'est un aveu personnel. Hein. C'est peut-être pas l'amour, hein. C'est peut-être la veille, ou c'est peut-être Comte Sponsville, ou je ne sais pas comment ce qu'il s'appelle. Ça peut être un sage d'aujourd'hui ou un sage d'hier, qu'importe. Hein. Mais la grande lecture me marque autrement. Moi, j'ai des pages dans ma Bible, Sagesse 6 à 9. Quand je lis ça, je suis de nouveau tout à fait dans mon assiette. Pourquoi? J'ai commencé à lire ça quand j'avais 15 ans. Hein. Donc, c'est des vieilles histoires qui m'ont brûlé une fois et qui continuent à me brûler chaque fois que j'ouvre ces pages. Et donc, le premier handicap, c'est cette concurrence. Et la conclusion, c'est qu'il faut se battre. Et qu'il faut avoir un lieu et un temps pour lire, sans quoi il n'y aura pas de lecture, il n'y en aura plus. Adorno, le philosophe, a dit « Keine Kammermusik ohne Kammer ». Pas de musique de chambre sans chambre. La chambre, c'est une réalité sociologique. C'est c'est quand il y a eu la chambre qu'on a eu une musique de chambre. Mais détruisez la chambre, il n'y a plus de chambre musique. On ne crée plus de la musique pour la chambre parce qu'il n'y a plus le contexte. Si je peux encore une fois citer ma mère, ils ont déménagé, mon père et ma mère, quand ils avaient, je crois, 65 ans ou un truc comme ça, ils ont été habités dans un petit appartement. Ça a duré des mois qu'elle me disait, j'ai pas encore trouvé mon coin. Et mon coin, c'est quoi? C'est le lieu où, assis, je peux à la fois faire du travail manuel, je peux lire, et je peux d'un œil vérifier ce que mon père regarde à la télévision. C'est un coin synthétique où elle était chez elle. Disons. Et notamment où elle lit. Et lire avec tout le jouitif et l'intensif que ça suppose. Et donc, avoir son coin, avoir son heure, avoir son rite, hein, c'est capital. Et si vous ne l'établissez pas, c'est fini. Ça ne marchera pas. Moi, je sais, par exemple, dans des enquêtes aussi, j'ai vérifié qu'il faut lire le matin. Qu'après 9h, je ne sais plus lire ma Bible comme je le lis entre 6h et 9h. Ce n'est pas que je lis tous les jours de 6h à 9h, mais je dois trouver mon moment entre 6h du matin et 9h du matin. Si 9h est arrivé, ma journée est mangée par mille et une choses, par des visites, des coups de téléphone, des nécessités quelconques, et je ne sais plus me concentrer de façon durable. Or, sans une certaine quantité, il n'y a pas la qualité. C'est une grande règle de vie spirituelle. Vouloir la qualité comme ça tout de suite en un. En une seconde, en une aspirine, non. La qualité a besoin d'une quantité. Et donc, dans les enquêtes, je demande combien de temps les gens passent à leur lecture biblique, leur lecture divine. Ceux qui me disent un quart d'heure par jour, je n'y crois pas. Je veux dire, 30 minutes, 35 minutes est un minimum pour que la mayonnaise prenne. Sauf si on est très très exercé, alors on peut parfois en 10 minutes déjà atteindre le fond. Mais ça se fait seulement quand on a habituellement plus de temps. Et si donc exceptionnellement, ce matin, j'ai eu très peu de temps, j'ai quand même pu faire un moment qui a été court, mais qui a été, disons, en prise directe. Et c'est parce qu'on a de l'entraînement. Mais l'entraînement ne vient que parce qu'on se donne le temps. Et faire de l'entraînement trop court, la mayonnaise ne prend pas. Si vous comprenez cette image culinaire un peu banale, un peu basse, mais il faut un certain temps. Et on peut se commencer après. Ah, je suis à fond. Donc ça c'est le premier handicap, un deuxième qui est tout aussi tragique à certains égards, c'est la mémoire. Sans mémoire, on ne sait plus lire. Les gens âgés, les gens qui ont Alzheimer, n'arrivent plus vraiment à lire. Pourquoi? Parce qu'ils lisent une phrase et ils l'oublient. Et la phrase suivante ne donne plus de sens, donc ils doivent relire la première une deuxième fois pour l'inscrire. Et c'est trop fatigant, alors ils disent « je ne sais plus lire ». Ça ne veut pas dire qu'ils ne se souviennent plus de rien, ils se souviennent encore très bien et de tout ce qui s'est passé dans leur enfance. Et quand ils étaient missionnaires en Afrique, ils peuvent vous raconter pendant 3 heures. Mais quand ils lisent, ça s'efface trop vite. Et c'est ça la difficulté après 9h du matin, c'est que les choses s'effacent trop vite. Tandis que quand il n'y a rien et aucun souci, alors la nuit est un moment idéal pour prendre un grand texte et le lire. Vous ne savez pas dormir, asseyez-vous devant l'icône, prenez un grand texte. Vous verrez qu'il s'inscrit. Il s'inscrit de lui-même. Parce qu'il n'y a aucun... comment est-ce que vous dites?
Parasite.
Il n'y a pas de parasite, exactement. Rien qui parasite votre lecture. Et à ce moment-là, les choses s'inscrivent, vous dormez de nouveau, et le lendemain, vous vous souvenez de la lumière de la nuit. C'est une des grandes redécouvertes, c'est que ta journée vaut ce que était ta nuit, dit le vieux moine. Or, chaque nuit, on veille un bout. Et on inscrit quelque chose de lumineux dans la nuit. Alors la journée est portée par la lumière de la nuit. Et donc, deuxième handicap, cette lecture sans mémoire. Et donc, faites des petits efforts de mémorisation. La mémoire travaille comme un filet. Et au fur et à mesure que vous faites des petits efforts de mémorisation, le filet devient plus intense. Et vous retenez finalement tout. Vous pouvez tout mettre quelque part, casé dans la mémoire. Mais si vos mains sont très larges, tout passe à travers, évidemment. Donc il faut répéter. La mémoire n'est pas difficile. Beaucoup de gens disent, c'est parce que nous ne répétons plus et nous méprisons la répétition. Or, les grands textes sont incompréhensibles au moment même. Il y a un exégète qui a dit, les paroles de Jésus, les grands paradoxes de Jésus, ont d'abord été mémorisées avant d'être compris. Ça, c'est comme ça que marchent les grands esprits aussi. Vous entendez quelque chose d'important et vous ne le comprenez pas, inscrivez-le, sinon c'est parti. Inscrivez-le et puis relisez-le. Et peut-être dans 3 jours, peut-être dans 1 semaine, ah, maintenant je crois que je comprends. C'était difficile parce que ceci, parce que cela, mais maintenant je crois que ça veut dire ceci. C'est du moins comme ça que moi je travaille. Donc mémorisez. Et quand il n'y a pas de mémoire, évidemment, la lecture devient facilement fondamentaliste. Un texte comme Saint Matthieu est un texte qui fait des allusions à gauche et à droite. Si je ne perçois pas les allusions parce que je n'ai pas de mémoire, je perçois les allusions parce que je connais tout l'Ancien Testament par cœur. Si je ne le connais pas par cœur, je ne comprends rien. Alors, je prends tout pour de l'argent comptant. Alors que Matthieu est en train d'introduire une nuance, introduire une dialectique, introduire un suspense. Ben, je ne comprends pas le suspense, j'avale tout. Je n'ai pas besoin de ruminer. Tandis que grâce à la mémoire, je dois ruminer. Oh, mais ça fait écho à Moïse, ça fait écho à Élie. Ah bon? Et comment? De quelle façon? Et à ce moment-là, je commence à ruminer et je deviens un grand lecteur. Tandis que sinon, je suis un cochon, j'avale tout. Sans mâcher. Et donc, la mémoire est un moyen privilégié pour sortir d'une lecture fondamentale. Alors il me reste les 3 mesures, ça je voudrais absolument vous enseigner, parce que ça doit vous mettre à demeure pour la lecture. L'Église nous propose 3 mesures de lecture, un minimum, un maximum, et puis un entre les deux. Ça va? Le minimum, ce sont les 3 lectures du dimanche. Parce que la première Bible du chrétien, c'est le missel. Ça a toujours été ainsi, depuis les premiers siècles. La première Bible du chrétien, c'est le missel. D'ailleurs, la Bible est née comme livre liturgique. Qu'est-ce que c'est que la Bible? C'est une sélection de textes, il y en avait beaucoup plus. À un moment, on ne peut pas tout recopier, et on choisit. Qu'est-ce qu'on choisit? Ce qu'on va lire dans la communauté, dans les assemblées. Et donc, la Bible est un lectionnaire. Or, notre lectionnaire actuel, c'est avantageusement gonflé depuis le Concile, et à peu près 1000 péricopes qui se sont ajoutés par rapport à l'ancien essai. C'est pas négligeable. Et à travers cette Bible, disons, liturgique, vous parcourez toute la Bible. Il n'y en a pratiquement aucun écrit de l'Ancien Testament comme du Nouveau qui est sauté dans la Bible liturgique. Mais la première Bible liturgique, c'est celle du dimanche. Donc, préparer son dimanche et vivre de dimanche en dimanche avec les 3 lectures plus le psaume intercalaire, ça fait un accord. C'est une trouvaille liturgique. Chaque semaine, il y a une proposition ainsi. Et même si, pour des circonstances de famille, de voyage, d'occupation, il est impossible d'aller le dimanche à la messe, je peux toujours prendre ces 3 lectures. Et trouver un moment dans la journée, le soir, le matin, tout. Je me recueille seul, à 2, à 3, autour de ces lectures. Le petit déjeuner dans une famille chrétienne, ça devrait être quand même chaque fois quelque chose de spécial. Moi, j'invite les jeunes que je marie d'avoir une nappe blanche pour le dimanche matin. D'avoir toujours quelque chose qui est allumé, une chandelle. Si possible, un bâton d'encens. Si possible, une icône, quelque chose. Et si possible, l'évangile. Que dimanche matin, c'est c'est l'heure du chrétien, c'est l'heure de la résurrection. Et à ce moment-là, on est en fête. Si possible, un pistolet ou un pain un peu qualifié, le dimanche matin. Ah, nous sommes chrétiens, nous avons notre rite, notre dimanche matin. Et on est là ensemble. La joie de fêter, disons, la victoire sur la mort le dimanche matin avec l'évangile du jour, qu'on trouve dans certains agendas, qu'on trouve dans certains missels, dans certaines revues, dans la croix. Disons, chacun a ses moyens. Il y a maintenant des prions en église ou Magnificat, des petits recueils extrêmement pratiques et qui vous donnent du pain quotidien. Mais donc, ça me paraît le minimum. Et dès que vous le pratiquez, vous n'êtes plus seul. Vous êtes branché sur l'Église universelle. Parce qu'on lit ça au Vietnam, au Congo, au Venezuela. La même période. Heureux vous les pauvres, malheur à vous les riches, ça résonne d'un bout à l'autre du monde, le même jour. Ça nous interpelle, ça nous concerne ensemble. Notez que même les Anglicans ont repris ce mystère. Donc c'est plus large que seulement les catholiques. Voilà le minimum. Le maximum, c'est une Bible un an. Un an, une Bible.
Ça va? Un maximum.
C'est ce que je considère un maximum, oui. C'est l'autre extrême. Vous n'allez pas si bête que ça, ça veut dire que chaque livre de la Bible a sa place dans l'année liturgique. Et dans le livre qui va sortir, vous verrez qu'il y a une roue et qui donne pour chaque mois les livres de l'Ancien Testament et les livres du Nouveau Testament qui sont indiqués. Par exemple, qu'est-ce qu'on lit en décembre? De façon indiquée. Le mois de décembre, c'est-à-dire le mois de l'Avent. Qu'est-ce qu'on lit habituellement? Qu'est-ce qu'on lit habituellement? Vous êtes timide, hein? Vous êtes gentil. Vous êtes timide et vous êtes poli. Vous ne voulez pas prendre la parole devant quelqu'un d'autre. Mais vous savez, je crois qu'on lit Isaïe, le grand Isaïe, qui est le prophète des annonces messianiques. Ça, c'est donc pour l'avant. Quel prophète est-ce qu'on lit pendant le carême de préférence? Qui est le prophète qui nous accompagne pendant le carême. Celui qui a ses Jérémiades. Hein? Jérémie, hein, qui a toute une biographie, un petit évangile narratif d'une vie de prophète qui est en fait un brouillon des évangiles de la Passion et des évangiles de la synoptique. Jérémie pendant le carême. Et donc, en fait, chaque livre a son temps. Par exemple, Ézéchiel, c'est typiquement un prophète qu'on lit à l'automne. Tous les prophètes eschatologiques, on les lit au moment où la nature aussi est dans une situation scatologique ou eschatologique. Et donc, l'intérêt de ce schéma, et je vous ai donné, donc vous avez maintenant parmi vos feuilles, vous ne pouvez plus vous désister, une feuille, un Bible, un an, il faut la plier en deux. Ça commence avec l'Avent, et ça a été fait par une religieuse dominicaine. Donc, pliez ça en deux, on vous rencontre au bon endroit, mais... et alors vous voyez d'un côté l'avant. En dessous là, la feuille en dessous, la dernière, voilà. Vous la pliez en deux, vous glissez ça dans votre Bible, et vous savez chaque jour ce qu'il vous faut lire, un chapitre, deux chapitres, c'est marqué l'un et à l'autre, et pratiquement, à part les évangiles, vous trouvez tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament dans cette feuille. Pas mal, hein? Un an. Il faut faire ça une fois dans sa vie. Il ne faut pas faire ça chaque année. Mais il faut que la Bible soit, disons, une fois parcourue en entier. Alors, tout ce que je lis, c'est relecture. Et donc, je peux être... Et au début, il faut lire avec des bonnes enjambées, mais vous verrez que votre estomac va s'agrandir, va s'élargir. Et que vous serez sur votre feuille si vous n'avez pas lu vos 3 ou 4 chapitres, ou 2 chapitres, un par jour. Et si vous sautez un jour ou deux, alors il faut courir après ces 2 fois 4, 8 chapitres, plus les 4 d'aujourd'hui. Ça fait 12 chapitres. Vous allez risquer un peu cardiaque à la fin de la semaine. Hein. Donc, restez dans le rythme. Parfois, il faut se lever un peu plus tôt. Mais c'est très agréable quand on a pris goût. Et ça, c'est le maximum. Mais donc, l'idée, c'est une dominicaine qui a fait ça avant le concile. Et j'ai réadapté ça pour le concile, parce que les schémas ont un peu changé au point de vue liturgique. Mais la bonne idée, c'est que liturgiquement, chaque livre a sa place dans l'année. Et donc, elle n'invente pas, elle suit ce qui est habituel dans nos bréviaires. Mais elle donne une portion, et grâce à ça, on peut parcourir ensemble. Alors, entre les deux, il y a ce qu'on a tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, les deux lectures et le psaume, la lecture de la première épître de Pierre, chapitre 4, et puis l'autre, c'était Marc, chapitre 11. Et donc, chaque jour, on avance, on a 9 semaines Saint-Marc, 11 semaines Matthieu, et 13 semaines Saint-Luc, et puis au temps fort, on a Saint-Jean. Chaque année, on a les 4 évangiles, hein. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est dans votre missel, et ceux qui ont Magnificat, ou prions en Église, ils ont chaque mois l'ensemble. Et bien orchestré, avec des petits commentaires. Et donc, de nouveau, ne croyez pas que vous faites quelque chose comme ça de solitaire. Même ici, si je vais faire ce soir une enquête avec les frères, et que je leur demande, est-ce que vous lisez la Bible? Quelle Bible est-ce que vous lisez? Je vous assure que 70% dira, je lis les péricopes du jour au bord de mon lit, la veille. Donc, si vous vous asseyez au bord de votre lit, vous avez votre petit Magnificat à côté, vous lisez les lectures du lendemain, vous faites ce que 80% des moines et des religieux et religieuses font. Même des prêtres qui n'ont pas l'occasion de dire la messe tous les jours, ils ont ça comme pratique. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes de nouveau en Église. Et également les Anglicans, plus encore en semaine que le dimanche, ont ce lectionnaire. Donc selon chaque année des Anglicans, des prêtres qui viennent en retraite chez nous, au monastère, qui suivent tous nos offices en flamand. Je ne sais pas très bien comment ils font, on l'aime mystiquement, mais ils ont l'air de s'y retrouver. Il y a assez bien d'éléments communs, de frisons, qui est passé en Angleterre et qui est resté en flamand, pour qu'ils peuvent nous deviner. Mais quoi qu'il en soit, les lectures de la messe sont exactement les mêmes pour eux et pour nous. Assez remarquable et impressionnant. Et de nouveau, en 2 ans, vous parcourez toutes les Écritures. C'est un peu plus sobre que le schéma de la sœur, comment est-ce qu'elle s'appelle, son nom là,
Marie de la Trinité.
Marie de la Trinité. Cette dominicaine est très fameuse aujourd'hui. Elle a traversé des épreuves atroces, notamment aussi avec le grand Lacan, hein, vous connaissez le psychiatre Lacan. Psychanalyste, et on voudrait en faire une sainte. Vous pensez? Il y a Jeanne d'Arc, il y a Thérèse, il y a Bernadette, et il y a peut-être cette Marie de la Trinité. Donc, tout ce que vous pouvez trouver d'elle vaut la peine. Elle a écrit des choses remarquables bien avant le Concile, et ceci est avant le Concile aussi. C'est dans une période des plus obscures de sa vie qu'elle a rédigé ce chemin. J'étais novice en 64 et j'ai reçu ce schéma. Et je l'ai pratiqué et maintenant, je suis devenu un vieillard, je vous le communique. Il reste, et on va arrêter, oui, on doit s'arrêter. Mais il reste une chose que je vais développer demain, c'est le point mystique. Lire, c'est un peu revenir sur le point de départ. Lire, c'est Dieu qui me parle. Quand tu lis, il te parle. Quand tu pries, tu le parles. Ça, c'est la clé que Cyprien, Jérôme, Ambroise, Augustin ont répété. Quand tu lis, il te parle. Quand tu pries, tu lui parles. On va analyser ça demain. C'est une dernière clé de votre lecture biblique. Pas évident du tout pour l'homme d'aujourd'hui, mais qui est fondamental. Merci pour votre patience, excusez-moi que j'ai débordé le temps.
Merci.